Bonjour, et bien nous allons continuer notre étude sur les Hébreux. Alors, je vous rappelle encore une fois de plus que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on prêche l'Évangile sur Facebook et qui me signalent, et ce qui fait que je suis régulièrement bloqué par Facebook. Alors, je vous rappelle, pour me retrouver, vous allez sur Révélation Bible, en un mot, sans accent, révélationbible.fr. Et là, vous trouvez tous mes messages. C'est un site, c'est pas Facebook, c'est un vrai site sur lequel vous allez pouvoir me retrouver avec beaucoup d'autres choses encore. Alors, on va lire Hébreux, chapitre 6, verset 13 à 20. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposé. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle a pénétré au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Jésus, je te demande de m'aider à être clair, et je te demande que mes frères et sœurs puissent suivre et bien comprendre l'importance de ces choses. Et bénis-les, corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Alors quand on lit ce texte, on ne réalise pas toujours qu'Abraham a eu non seulement la foi, mais aussi une sacrée patience. Souvenez-vous que quand Abraham a été appelé à quitter son pays, il a reçu la promesse d'une postérité nombreuse, d'une bénédiction personnelle et d'une bénédiction des nations qui étaient en lui. On va lire ça dans Genèse chapitre 12 et versets 1 à 3. Chapitre 12 de la Genèse. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'était au chapitre 12, c'était tout au commencement, quand Dieu dit à Abraham de quitter son pays, Ur en Chaldée, et pour aller recevoir une terre que nous savons maintenant, c'est Israël. Dieu lui fait une promesse, comme à nous lorsqu'il nous invite à renoncer à tout quitter, pour vivre dans la vie de l'Église, selon acte 2, acte 4, renoncer à toute chose. Mais Dieu ne fait pas de serment à ce moment-là, quand il dit à Abraham de quitter son pays. Il fait une promesse. Il n'a fait un serment qu'après qu'Abraham a été mis à l'épreuve. Et comme c'est écrit dans Hébreux 6,15, ce n'est qu'après qu'Abraham ait persévéré que Dieu jura par lui-même et fit un serment. Alors je relis Hébreux 6,15, écoutez bien. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Alors, entre la promesse de Dieu et le serment de Dieu, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé, pendant lequel la foi et la patience d'Abraham ont été exercées et éprouvées de façon terrible. Pensez-y. la naissance si longtemps différée d'Isaac. Et puis, des années après, quand Isaac devient un jeune enfant, un jeune garçon, bien des années après la naissance d'Isaac, Dieu commande à son serviteur Abraham la chose la plus terrible, d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Alors c'est un ordre terrible, ça semble hors de sens, puisque Dieu avait dit en Isaac, te sera appelé une semence, une postérité, puis voilà que maintenant il faut le tuer, il faut l'offrir en sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête et dans le cœur d'Abraham? Il a obéi, mais ça n'a pas dû être facile. Croyez-vous que tout ça s'est passé sans souffrance? Depuis le moment où Abraham est sorti d'Ur en Chaldée, jusqu'à ce moment où il est en train de gravir cette colline pour offrir son fils en sacrifice, tant d'années se sont écoulées. Vous croyez que c'était sans souffrance? Sans qu'Abraham fût tenté de douter de Dieu, ou peut-être même de lui? Il s'est dit, mais est-ce que je ne suis pas un peu zinzin? Est-ce que je ne suis pas un peu fou? Est-ce que je ne me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Est-ce que je ne suis pas dingo? Dieu me dit qu'il va me donner un fils, que ce fils, j'aurai une postérité au travers de lui, puis voilà que maintenant le même Dieu me dit de l'offrir en sacrifice. Abraham, sa patience et sa foi passent avant tout. Et il a retrouvé son fils Isaac comme au travers d'une résurrection. Vous connaissez l'histoire. Et c'est seulement là, à ce moment-là, qu'il a obtenu la promesse confirmée par un serment. Et on va lire ça dans Genèse chapitre 22, c'est-à-dire 10 chapitres après. 10 chapitres après la promesse. Voilà que Dieu fait un serment. Chapitre 22, verset 15 à 18. Écoutez bien. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, donc le sacrifice, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, etc., etc. Je jure par moi-même. C'est là que Dieu fait un serment. Dieu jure par lui-même. Et le verset 16 nous rappelle que parmi les humains, le verset 16 de Hébreux 6, le serment met fin à toute contestation. Et le serment rend ferme ce qui a été convenu. Des gens qui font un serment, s'ils trahissent le serment, ils sont parjures, et ça, il n'y a rien de plus grave. Quelqu'un qui est parjure, comment voulez-vous lui faire confiance à nouveau? C'est pas possible. C'est très difficile, du moins. Alors, nous, les humains, nous jurons par ce qui est plus grand que nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la Bible dit, ne faites pas ça, ne jurez pas. Mais Dieu fait intervenir le serment pour confirmer la promesse. Et il jure par lui-même, parce qu'il n'y a rien de plus grand que lui-même. Et la confirmation de la promesse faite en Genèse 12, 1, 3, n'est faite qu'en Genèse 22, 15. Il s'est passé du temps, des années. Et ça ne s'est fait comme ça que parce que Abraham a gardé la foi et la patience. Il n'a pu avoir ce serment que parce qu'il a gardé la foi et la patience. Que parce qu'Abraham a obéi, il dit, parce que tu as obéi, parce qu'il s'est soumis à Dieu, en attendant. Et même, il a fait le pire, il a levé le couteau sur son fils, sur ordre de Dieu. Voyez comment Dieu est. Vous voyez comment Dieu fait? Alors quand j'entends des prières du genre « Seigneur, j'en peux plus, Tu as promis dans ta parole de faire ceci ou de faire cela. Alors agis maintenant au nom de Jésus. Puis alors on dirait qu'il commande Dieu. C'est quoi ça? Ça ne ressemble pas du tout à la foi et à la patience d'Abraham, le père de la foi. Quand je vois ça, quand j'entends ça, qu'est-ce que je vois? Je vois de l'immaturité. Oui, Dieu a promis, c'est vrai, Dieu a promis. Et puis, il met à l'épreuve notre foi et notre patience. Qui c'est qui aime la patience? Pas moi. Et pourtant, il faut bien que je sois patient. Avec Dieu, c'est comme ça, la foi et la patience. Parce qu'il y a du temps qui s'écoule. Alors, il a fait une promesse, et puis on dirait que tout s'écroule. Mais non, il faut avoir la foi et puis la patience. Et les choses s'arrangent, et Dieu fait ensuite un serment. Puis, une fois que vous aurez traversé tout avec succès, eh bien, il fait enfin le serment. C'est-à-dire qu'il clôt toute contestation diabolique et charnelle venant des autres. Et il rend ferme ce qui était convenu au départ. Quand on s'est tourné vers lui, quand on a tout quitté pour aller sur ce pays promu. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, les héritiers de la promesse, ce sont les croyants, c'est-à-dire les vrais fils d'Abraham. Nous héritons de la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction, elle est en Christ, et elle est par Christ, qui est une semence d'Abraham. Et cela selon le conseil immuable de Dieu. Parce que Dieu a décidé, et quand il a décidé une chose, il l'accomplit. Mais entre le moment où il a décidé, où il dit la chose, et puis où il fait le sermon, et où la chose se passe, eh bien, il peut y avoir un peu de temps, mes enfants. Alors, la foi et la patience, s'il vous plaît. Et pour que nous ne perdions pas la foi, alors que le temps passe et que la bénédiction semble tarder parfois, eh bien Dieu nous donne, un, la promesse et nous rappelle le serment au travers de l'écriture que nous venons de lire dans Matthieu, dans Hébreux chapitre 6. Quand Dieu promet, il ne revient pas en arrière, mais pour que son nom soit glorifié, devant les démons, devant les gens, devant les chrétiens incrédules, charnels et les soi-disant chrétiens, devant les anges et devant tout le monde, notre foi est toujours mise à l'épreuve, notre patience est toujours mise à l'épreuve. C'est ainsi que le monde entier, le monde physique et le monde spirituel, connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu par nous, qui avons toujours foi et qui avons toujours la patience. Parce que nous croyons dans la promesse de Dieu. Alors le serment donne à la promesse une plus grande solennité. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, une solennité. Ainsi notre foi a un fondement encore plus inébranlable. Et ça nous est nécessaire. C'est ainsi que les lecteurs de l'Épître aux Hébreux, donc ces fameux Hébreux qui étaient devenus chrétiens, ils ont pu s'appuyer sur la promesse et le serment de Dieu pour avoir une ferme consolation dans les moments difficiles. Mais nous aussi, nous sommes les lecteurs de cette Épître, je crois que c'est Paul qui l'a écrite, de cette Épître aux Hébreux, elle nous est aussi adressée, et notre foi et notre patience sont aussi appuyées sur la promesse et le serment de Dieu. Jésus est dans la gloire. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite du Père, et il va revenir en gloire pour nous prendre avec lui et nous introduire dans la gloire. Cette espérance, c'est une ancre, nous dit l'apôtre, une ancre de l'âme qui traverse le voile de la chair, qui va s'accrocher au trône de la gloire de Jésus. C'est qu'une ancre. Je ne vous parle pas de l'encre pour écrire, je vous parle de l'encre des bateaux. Hein, quand on jette l'encre, ça s'accroche, et voilà. Eh bien, nous avons une encre, notre espérance est une encre qui est jetée de nous jusque derrière le voile, jusqu'à l'endroit où se trouve Jésus sur son trône de gloire. Et nous sommes ancrés là. Et même si sur la terre c'est long, et même si sur la terre il semble qu'il n'y a rien qui s'arrange, et même si sur la terre, malgré les promesses de guérison, malgré les promesses de prospérité, il semble que tout va de travers, eh bien nous sommes ancrés dans la foi et nous avons la patience parce qu'il y a la promesse de Dieu et le serment de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Jésus-Christ est notre précurseur. Il a franchi le voile et notre espérance va de nous jusque derrière ce voile, jusqu'au trône de la grâce. Et nous sommes, par cette encre, qui est notre espérance, un peu comme les criminels qui, en Israël, pouvaient être sauvés en se réfugiant dans les villes-refuges. Je vous dirai lire Nombre, chapitre 35, et Josué, chapitre 20. Il y avait des villes-refuges dans lesquelles les criminels, les meurtriers pouvaient aller se cacher et ils étaient tranquilles, tant qu'ils restaient là, c'était bien pour eux, ils étaient tranquilles. Et nous, tant que l'ancre de notre espérance est plantée au pied du trône de la grâce, et que nous tenons bien cette chaîne qui nous lie au-delà du voile, alors nous sommes dans un refuge. Alors notre espérance, telle une ancre, traverse tout l'espace qui s'étend entre la mer agitée de ce monde, cette folie, et les lieux célestes où se trouve Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ, qui est devenu sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul revient à ce qu'il disait jusqu'au chapitre 5, verset 11. Rappelez, je vous ai dit, là maintenant, l'apôtre Paul ferme la parenthèse au sujet de la sacrificature et il va parler d'autre chose. Mais maintenant, il ferme la parenthèse qu'il avait ouverte dans Hébreux 5, 11 et il ramène notre pensée à ce système glorieux et céleste qu'est la sacrificature unique et parfaite de Jésus-Christ, cette sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, cette prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Ce n'est plus une sacrificature terrestre dont il est question là, c'est une sacrificature céleste, unique en Jésus-Christ. Et on va voir ces choses vendredi prochain, si Dieu nous prête vie, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs, de leur rappeler, 1, des promesses, 2, le serment, et rappelle-leur de garder la foi, et puis d'être patient, même s'ils ont mal, au nom de Jésus. Amen. Au revoir.